Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle maladie rare, l'ostéomalacie oncogénique. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Pascal Houillet. Professeur Houillet, bonjour.
Bonjour.
Professeur Houillet, vous êtes néphrologue, chef du service de physiologie et exploration fonctionnelle de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et responsable du site HEGP du Centre de référence des maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate. Alors, professeur Houillet, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'appelle-t-on ostéomalacie oncogénique ?
Alors, ce qu'on appelle ostéomalacie oncogénique, c'est ce que les anglo-saxons appellent TIO, c'est-à-dire Tumor-Induced Osteomalacia, ou en français, si on voulait le traduire, ostéomalacie induite par une tumeur. C'est une maladie rare, et en fait, je devrais dire très rare, qui se développe en général chez l'adulte. Il y a de très rares cas chez l'enfant, rapportés dans la littérature. Et pour vous donner une idée de la rareté, quand on fait une compilation de la littérature médicale spécialisée, on compte moins de 1000 cas rapportés. On estime que la prévalence instantanée de la maladie est inférieure à un cas pour 100 000 habitants. Je rappelle que le seuil de définition d'une maladie rare, c'est quelque chose qui affecte moins d'une personne sur 2000. Donc on voit bien que l'ostéomalacie oncogénique, ça rentre dans la catégorie des maladies rares, ça rentre même dans la catégorie des maladies très rares. Donc comme je vous le disais, c'est une maladie qui est acquise le plus souvent à l'âge adulte, avec une médiane d'âge de diagnostic qui est située dans la cinquième décennie. Il y a de très rares cas qui sont décrits chez l'enfant, mais il faut retenir que c'est une maladie de l'adulte. Et la cause de cette maladie, c'est une production tumorale d'un peptide qu'on appelle le FGF23, qui est normalement produit par une catégorie précise de cellules osseuses qui sont les ostéocytes, qui sont loin d'être les cellules osseuses les plus nombreuses. Et dans cette maladie-là, le FGF23 est produit de manière inadaptée, excessive, par des tumeurs qui en général sont extra-osseuses. Et on se retrouve en condition permanente d'excès de FGF23. Alors le FGF23 est surtout connu comme étant une hormone qui inhibe la réabsorption de phosphate par le rein, donc c'est une hormone hypophosphatémiante, et elle a un autre effet qui est qu'elle inhibe la fabrication du métabolite le plus actif de la vitamine D, qui est la 1,25 dihydroxyvitamine D. Donc elle est hypophosphatémiante et elle induit un déficit en 1,25 dihydroxyvitamine D. Et les conséquences de ça sont la survenue d'une ostéomalacie, c'est-à-dire d'une déminéralisation osseuse au sens propre du terme, c'est-à-dire que l'os se déminéralise, mais il ne perd pas sa quantité de protéines. Donc en fait, l'os devient mou, et quand un os se ramollit, il devient douloureux.
Et comment survient cette ostéomalacie oncogénique ? Quelle est sa physiopathologie ?
Alors, la physiopathologie précise, on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est à l'origine du développement de la tumeur qui va se mettre à fabriquer du FGF23. Il faut préciser que ces tumeurs sont en général composées de cellules mésenchymateuses. Ce sont des tumeurs qui sont le plus souvent bénignes, histologiquement. Cela étant, elles peuvent être mal placées, ce qui crée des situations médicales qui peuvent être compliquées. Mais le plus souvent, elles sont bénignes, pas toujours, mais le plus souvent. Elles sont souvent petites, et ça va poser un problème de diagnostic. Et elles sont de croissance lente. Donc ce sont des tumeurs qui sont difficiles à trouver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi elles apparaissent. Et on ne sait pas non plus précisément pour quelles raisons elles se mettent à fabriquer de grandes quantités, enfin plus ou moins grandes, mais toujours excessives, de FGF23. Ce qui est sûr, c'est que si on ne les enlève pas, elles ne vont pas s'arrêter toutes seules de fabriquer du FGF23. Les conséquences sont celles de l'excès permanent du FGF23.
Et d'un point de vue clinique, cette fois, quels sont les principaux symptômes rencontrés chez les patients touchés ?
Alors le symptôme dominant, c'est la douleur, qui est une douleur musculo-squelettique qui est progressivement croissante, qui s'accompagne d'une faiblesse musculaire progressive. La combinaison de la douleur et de la faiblesse musculaire crée une incapacité fonctionnelle, y compris pour les déplacements de la vie quotidienne, qui est là aussi progressivement croissante. Alors à ça peut s'ajouter des signes qui sont dus à la localisation de la tumeur elle-même. Par exemple, quand on a une tumeur qui se situe à l'intérieur du canal rachidien, on peut avoir des signes de compression neurologique qui viennent s'ajouter aux signes de l'ostéomalacie. Donc le tableau, il est dominé par les douleurs, il est dominé par la fatigue, par l'épuisement, et c'est pour ça que les diagnostics, les premiers diagnostics qui sont faits chez un patient qui a une ostéomalacie oncogénique sont en général pas les bons. Assez souvent, c'est un diagnostic de cancer, c'est un diagnostic de métastase osseuse, c'est un diagnostic de maladie systémique non hormonale. Dans les séries qui sont disponibles dans les littératures, on se rend compte que dans l'ostéomalacie oncogénique, dans 95% des cas, le premier diagnostic n'est pas le bon. Et une des raisons pour lesquelles ce n'est pas le bon, c'est que les symptômes dont se plaignent les patients et qui les conduisent chez le médecin conduisent à faire pratiquer des examens divers et variés, mais rarement à mesurer la phosphatémie dans le sang, qui serait l'examen qu'il faut absolument réaliser si on veut avoir une chance de faire le diagnostic d'ostéomalacie oncogénique.
Et sans traitement, quelle est l'évolution de cette ostéomalacie oncogénique ?
Ça ne va faire qu'empirer. Ça ne guérit pas tout seul. Donc, si on ne fait pas le diagnostic, et le retard au diagnostic est significatif, hein, il est en moyenne de plusieurs années. Si on ne fait pas le diagnostic, il n'y a pas d'amélioration possible.
Alors, pour conclure notre entretien, professeur Rouillet, en cas de signe évocateur, à qui adresser ces patients ?
Alors, le signe évocateur, encore une fois, on va l'avoir en faisant de la biologie et en trouvant une hypophosphatémie. Une fois qu'on a trouvé l'hypophosphatémie, en fait, on a fait une bonne partie du chemin. Il reste à montrer que c'est une hypophosphatémie d'origine rénale. Ça consiste à montrer qu'il y a simultanément pas assez de phosphate dans le sang et trop de phosphate dans l'urine. Voilà, pour faire bref. Et après, je dirais, ça devient une affaire de spécialistes. Alors, les spécialistes de l'ostéomalacie oncogénique, bah, comme c'est une maladie rare, ils ne sont pas très nombreux. Et je pense que c'est une bonne occasion à ce moment-là d'aller sur le site du centre de référence des maladies rares, du calcium et du phosphate, et de regarder qui sont les gens qui sont dans les centres de référence et dans les centres de compétences qui ont une chance d'avoir entendu parler de cette maladie, voire d'en avoir déjà pris en charge, et qui vont pouvoir accompagner le patient utilement le long du diagnostic et le long du traitement.
Eh bien, merci mille fois, professeur Rouillet, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'ostéomalacie oncogénique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.